On a vu ensemble qu'il était indispensable pour bien comprendre le Notre Père, bien le vivre, il faut absolument avoir cette révélation du Père. C'était notre premier point. On a vu aussi qu'il était nécessaire, c'était notre deuxième point, d'avoir la révélation du ciel. Parce que quand on considère le Notre Père, on s'aperçoit que la première partie de la prière, et ce n'est pas que dans le Notre Père, beaucoup de prières, on l'a vu aussi dans cette thématique, ces prières que nous faisons peu ou pas, beaucoup de prières, c'est le sens normal de la prière. La prière, c'est d'abord dans le sens de Dieu. Et Jésus, ici, dans cet exemple de prière, ces principes fondamentaux qui régissent la prière, nous montre par ce « que ton nom, que ton règne, que ta volonté » que la prière, elle n'est pas faite pour moi d'abord, elle est d'abord faite pour lui. Et je ne suis ni inquiet, ni frustré, je ne me sens pas rejeté, ni mis à l'écart, ni mis en second plan. Non, parce que j'ai eu la révélation du Père. Et je sais que mon Père, c'est ce qui évoque la prévoyance, la protection, l'amour. Je sais que mon Père a déjà tout prévu parfaitement pour moi. Je sais qu'il a toujours le même cœur et je sais qu'il a toutes les provisions en réserve pour moi dans le ciel. On a parlé de ce ciel qui est en réalité une dimension spirituelle, et que dans ce ciel il y a déjà tout, et tout ce qui est à Jésus est à moi. Je sais que c'est difficile à comprendre, beaucoup, une majorité de chrétiens n'y pensent pas, ne le comprennent pas. Si seulement vous pouviez comprendre que Dieu vous aime autant qu'il aime Jésus. Oui, c'est dur à comprendre que le Père puisse m'aimer moi autant qu'il aime Jésus. Mais à cause de Jésus, il n'y a aucune différence entre l'amour que le Père porte à Jésus et l'amour qu'il me porte. Le Père m'aime autant qu'il aime Jésus. Et tout ce qui est à Jésus, tout ce qui est dans le ciel est à moi. J'ai besoin d'avoir la révélation du Père, j'ai besoin d'avoir la révélation de tout ce qu'il y a dans son ciel. Et ensuite, ayant ces révélations du Père et du ciel, mon âme est calme, elle est tranquille. Ce n'est pas le besoin qui me fait venir devant Dieu. C'est l'amour. C'est pas la nécessité, c'est pas les problèmes, c'est pas les difficultés qui me font venir devant Dieu. Non, c'est l'amour. C'est pas le besoin qui me fait prier, c'est la réponse à l'amour de mon Père céleste et aussi cette conviction, je suis pas un étranger. Paul dit vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des fils et des filles du royaume et ce qu'il y a dans le ciel vous appartient. Paul dit aux Éphésiens, vous êtes co-héritiers de Christ. Je suis co-héritier de Christ. Par conséquent, quand j'ai la révélation du Père, quand j'ai la révélation de ce qui m'appartient dans le ciel, qui je suis et ce que j'ai, sur la base de qui il est et ce qu'il m'a acquis, mon âme est paisible. Il n'y a pas d'inquiétude. Je n'ai pas besoin de multiplier des trucs. Je n'ai pas besoin de m'essayer de me convaincre que Dieu a entendu. Je n'essaye pas de convaincre Dieu du bien fondé de mes besoins. Non, je viens parce que je sais qu'il a pourvu à tout et que d'une façon ou d'une autre, il y a ce qu'il faut pour moi dans le ciel. Alors mon âme étant totalement déchargée de ses préoccupations, de ses soucis, de ses inquiétudes, de ses vaines redites, naturellement, le Notre Père commence à m'élever et je commence sérieusement à penser au nom de mon Père, à son règne et à sa volonté. On a vu le nom du Père, le nom de Dieu la semaine dernière. Ce soir, on s'arrête sur ces quatre petits mots, que ton règne vienne. Alors, il faut bien comprendre que le mot règne, ici le mot grec qui a été traduit par règne, se traduit aussi par royauté et aussi par royaume. C'est le même mot dans les évangiles quand vous lisez le royaume. J'ai vérifié pas tous les textes qui parlent du royaume dans les évangiles, mais une bonne partie, une multitude de textes, c'est toujours le même mot grec. Ici, littéralement, Jésus a dit « que ton royaume vienne ». C'est ça qu'il a dit. C'est le même mot que dans les autres textes qui parlent du royaume de Dieu. Quand Jésus dit, par exemple, « cherchez premièrement le royaume », c'est le même mot. C'est quoi le royaume des cieux ? C'est quoi le royaume de Dieu ? Alors, comme ce ciel dont on a parlé il y a quelque temps, évidemment, le royaume des cieux est spirituel. Et étant spirituel, par voie de cause à effet, ce royaume est donc invisible. Tout comme ce ciel dont parle Jésus, de cette dimension spirituelle, il est invisible à nos yeux, il est caché. Et d'autres versions ont traduit « que ton règne, que ton royaume vienne », d'autres versions de Bible traduisent « que ton royaume apparaisse ». Une autre version dit « que ton royaume devienne public ». Une autre version dit « que ton royaume devienne visible ». Que ton royaume devienne notoire, au sens que de ce qui est caché, ça devienne visible, notoire, évident. Certains chrétiens, quand ils pensent au royaume de Dieu, pensent à ce paradis où ils vivront pour l'éternité. Le royaume de Dieu, dans la pensée de Jésus, c'est bien plus que ça. D'autres chrétiens pensent aussi que ce royaume de Dieu, quand Jésus dit que ton règne vienne, il y a des chrétiens, ils pensent au retour de Jésus et ils pensent à ce règne millénaire du Christ sur la terre. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas la pensée de Jésus à ce moment-là. La pensée de Jésus va beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, le Seigneur reviendra, bien sûr, l'Esprit et l'Épouse disent « viens ». Mais quand Jésus dit que ton règne vienne, il ne parle pas de son retour millénaire sur la terre, de son règne millénaire sur la terre. Le royaume de Dieu, Jésus dit en Luc 17, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et on sait que c'est Jésus qui, par sa présence, par sa vie, par son enseignement, par ses œuvres, on sait que c'est Jésus qui a inauguré le royaume sur cette terre. On pourrait dire d'une certaine façon que Jésus est la personnification du royaume. Il est la manifestation visible, la manifestation parfaite, absolue, la manifestation la plus parfaite du royaume de Dieu sur la terre. Jésus est réellement la personnification, je dirais même, il est l'incarnation de la grâce de Dieu, l'incarnation du royaume. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, celui qui voit Jésus, qui le considère dans ses enseignements, dans sa vie, dans ses œuvres, dans son ministère, celui qui a vu Jésus voit le royaume de Dieu. Le royaume invisible est devenu une réalité visible au travers de la personne de Jésus. Jésus a vécu sur la terre exactement comme on vit dans le royaume de Dieu. Même bien plus, j'en ferai un verbe transitif, Jésus vivait le royaume sur cette terre. Il vivait le royaume au milieu de sa génération. Et maintenant que Jésus est remonté au ciel, mais fort heureusement, merci Seigneur, le royaume n'est pas remonté au ciel avec lui. Le royaume de Dieu, c'est sa volonté, est toujours manifeste, est toujours évident sur cette terre. J'aime beaucoup cette introduction dans le livre des Actes des Apôtres, vous connaissez cela, lorsque Luc, c'est Luc évidemment, qui a écrit l'évangile, le médecin, et qui écrit aussi à Théophile, c'est son second ouvrage, les Actes des Apôtres, et il dit Théophile, j'ai commencé dans mon premier ouvrage, mon évangile, à te parler de tout ce que Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Et il a été clair sur le fait que c'était un commencement. D'accord ? Un commencement. Et quand Jésus est remonté au ciel, il faut que ça continue. Et le royaume n'est pas remonté au ciel avec lui. Alors, comment le royaume va-t-il continuer à être notoire ? Comment va-t-il continuer à être visible, à être évident ? Ben, vous l'aviez très bien compris, vous l'aviez senti venir, c'est par l'intermédiaire des disciples que nous sommes. Et c'est pour ça que le Notre Père, en plus d'être une prière à vivre, en plus d'être une prière qui nous élève, le Notre Père est une prière qui nous engage. Parce que prier que ton règne vienne, que ton royaume vienne de façon fataliste, ça ne sert à rien du tout, hein. Le royaume de Dieu ne va pas tomber un jour comme ça, tout cuit, comme par enchantement sur la terre. Non, il est déjà là. Il est présent, il est visible, il est évident, notoire, public, accessible, remarquable, par l'intermédiaire de ceux qui l'ont d'abord laissé rentrer et vivre dans leur propre vie. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? C'est que les disciples ont pris conscience de leur responsabilité, mais en même temps de leur grand privilège, parce que être ambassadeur du royaume sur la terre, c'est autant un privilège qu'une grande responsabilité. Les disciples ont pris conscience que oui, par la présence du Saint-Esprit en eux, ils continuaient à être les représentants, les ambassadeurs du royaume sur cette terre. Et que c'était à eux, par le Saint-Esprit, certes, mais au travers d'eux, c'est à eux qu'incombait cette responsabilité, ce privilège de continuer à manifester les principes de vie du royaume, la façon dont on s'aime dans le royaume, la façon dont on est soumis les uns aux autres dans le royaume, la façon dont on pardonne dans le royaume, la façon dont on est joyeux dans le royaume, la façon dont on est paisible dans le royaume, la façon dont on gère les problèmes dans le royaume. Et tout cela, les disciples ont pris conscience à un moment qu'ils avaient, par le Saint-Esprit, la possibilité, le privilège extraordinaire, mais la responsabilité, l'appel divin sur leur vie, de continuer à prodiguer les œuvres et les enseignements de Jésus, parce que le royaume n'est pas remonté au ciel avec Jésus, le royaume est resté sur la terre. Si vous faites attention, vous apercevez que Jésus n'a jamais écrit une seule ligne. Tout ce que nous savons aujourd'hui, nous le savons par les disciples. Ils ont appris de lui. Ils se sont laissés modeler, façonner. Le royaume a déjà transformé leur cœur. Le royaume est déjà devenu évident dans leur propre vie. Ils ont appris de lui. Ils ont accueilli le royaume. Et ensuite, ils ont agi, parlé, vécu, enseigné, œuvré, pardonné, comme on le fait dans le royaume de Dieu. Jésus est monté au ciel, mais gloire à Dieu, le royaume est resté parmi les hommes. Et il continue d'être apporté aux hommes par l'intermédiaire des disciples que nous sommes aujourd'hui. J'aime beaucoup cette phrase de l'apôtre Paul aux Éphésiens, Éphésiens 4, quand à un moment il leur dit « Vous avez appris Christ ». Vous avez appris Christ. Ils l'ont appris. Vous avez appris Christ. Comment est-ce qu'on peut être ambassadeur d'un royaume si on ne connaît déjà pas convenablement le royaume que l'on représente? Comment est-ce que je vais bien parler du royaume si déjà je ne l'ai pas forcément bien compris moi-même? Comment est-ce que je vais me comporter ici-bas si je n'ai pas compris comment on se comporte dans le royaume de Dieu? Si je veux la porter efficacement, comme Jésus l'a apporté efficacement, comme les apôtres après lui, encore faut-il que je le connaisse, que je prenne la peine de le chercher et de l'accueillir. Et c'est pour ça que ça m'engage. Quand je dis « Seigneur, que ton royaume vienne », je ne suis pas en train de penser « Seigneur, je t'en supplie, il faut vite que ton royaume y vienne dans le cœur de ma femme. Vite, vite, mais alors très vite, parce que là, franchement, si ma femme pouvait vivre plus comme toi, sérieux, ma vie, elle serait mieux, Seigneur. » Je sais que les autres, ils ont besoin de changement. Je sais que les autres, ils ont besoin de repentance. Mais le Notre Père, c'est d'abord une prière qui nous engage. Que ton royaume vienne, qu'il vienne où? Dans les différentes traductions de Bible que je vous ai lues, j'ai peut-être oublié de nommer, de citer celle-ci. Que ton royaume, Seigneur, trouve une place pour avoir de l'influence. Et quelle est cette place où le royaume veut se poser? Ben, c'est trop facile d'attendre que le royaume se pose dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon patron, même s'ils en ont effectivement besoin, nous sommes bien d'accord. Cette place où le royaume va pouvoir s'installer, d'où il va pouvoir rayonner, d'où il va pouvoir avoir de l'influence, eh bien évidemment, je ne vois pas d'autre endroit plus approprié que mon cœur. Et tout comme Jésus a été la manifestation, la personnification, l'incarnation du royaume, nous ne sommes pas une incarnation ou une personnification du royaume comme Jésus a pu l'être, mais nous sommes appelés à être ses représentants, ses ambassadeurs du royaume. Et tout comme il a représenté dignement et noblement le royaume ici-bas, nous sommes appelés, nous aussi, à représenter le royaume de notre Papa céleste, de notre frère Jésus, ici-bas. Notre responsabilité, ma responsabilité en tant que disciple, c'est de recevoir premièrement le royaume dans mon cœur et ensuite de penser comme on pense dans le royaume. J'aime tout le monde, il y a des tas de chrétiens, je vous demande pardon, ils appartiennent au Seigneur, ah, pour qu'ils pensent comme Dieu pense, C'est dur, hein ? Pardon, hein ? J'ai tellement de mal à penser comme Dieu pense. Dans le royaume de Dieu, non, on ne pense pas comme on veut. Moi, je pense que, mais ce que tu penses, excuse-moi, ça ne nous intéresse pas. Si tu ne peux pas me le démontrer par des textes bibliques qui ne soient pas sortis de leur contexte, qui soient équilibrés, etc., etc., si ce que tu penses n'est pas vérifiable bibliquement parlant, pardon, ce que tu penses, ça ne nous intéresse pas. Je veux penser, j'ai besoin de penser comme mon papa pense. On peut être chrétien et malheureusement, tout en appartenant à la maison de Dieu, on est gens de la maison de Dieu, fils et filles du royaume, on ne parle pas comme notre papa céleste. Comment les autres, ils vont comprendre quelque chose ? Je leur dis, je suis chrétien, je ne parle pas comme mon papa parle. Les gens, ils regardent, ils disent, mais je ne comprends pas ton truc là. Attention, les gens autour de nous, les gens du monde, ils savent très bien ce que c'est un chrétien. Bien plus que ce qu'on croit. Paradoxalement, ils ne sont pas chrétiens, parfois ils sont hyper hostiles, mais ils savent très bien ce que doit être un chrétien. Ça m'a toujours scotché. Faut-il rappeler que les premiers disciples, ce n'est pas eux qui se sont appelés chrétiens. Ce sont les autres qui ont regardé les disciples et qui ont dit, eux, ce sont des chrétiens. Ils pensent comme leur maître, ils agissent comme leur maître, ils font les mêmes œuvres comme leur maître. Quand ça ne va pas, ils se pardonnent comme leur maître. Ils règlent les problèmes, ils gèrent les affaires comme leur maître. Chaque fois qu'on les voit, on a l'impression de voir leur maître. Ce sont des chrétiens. Vous avez déjà vu ça et dit ça avec vos propres enfants ou avec vos parents. On a dit, ah ben alors lui, quand on le voit, oh, c'est le fils de son père, mais alors ? Combien de fois on m'a dit dans les congrès, dans les conventions, dans les pastorales, oh, toi tu dois être le fils à Daniel Brion, toi. On ne s'était jamais rencontrés. Mais quand ils me voient, vous avez pas vu mon papa ? Il y en a certains qui l'ont vu. Il n'y a pas longtemps, mon fils, il a vu une photo de moi. Il m'a dit, papa, c'est effrayant, tu ressembles de plus en plus à papy Daniel. Je suis coincé. Quand je suis arrivé à Caen en 2010, il faut savoir que mon papa avait été à Caen dans sa jeunesse, dans les années 50 et quelques, quand il avait 18 ans, il avait participé à la construction de l'église. Et certains anciens, vraiment anciens, se souvenaient de lui, bien sûr. Et quand je suis arrivé la première fois dans l'église en 2010, il y a une petite mamie bien brave, mais qui commençait un petit peu à plus avoir trop le sens des réalités, elle m'a regardé, elle m'avait comme ça, elle m'a dit « Mais vous êtes Daniel !» Je lui ai dit, non mamie, je suis Stéphane, je suis son fils. Puis en rigolant, je lui ai dit, vous savez, si mon papa, vu son âge, il était comme ça, il serait drôlement bien conservé, vous savez. Après, j'ai vu des enfants qui, c'est pas qu'ils veulent prêcher comme leur papa, mais quand je vois mon beau-frère, il ressemble à Guy comme deux gouttes d'eau, vous l'entendez, vous le regardez, je vois mon beau-père, c'est incroyable, il fait pas exprès. C'est comme ça, c'est génétique. Nous, on a la génétique du royaume. Et ce qui serait bien, c'est quand les autres, ils nous regardent, ils disent, purée, qu'est-ce qui ressemble à son père, celui-là ? Mais papa du ciel, hein ? Et c'est exactement comme ça. Et c'est ça qui interpelle les autres. Alors, véhiculer le royaume, je le véhicule comment ? Ben, je commence simplement par laisser le royaume prendre de plus en plus de place dans mon cœur, dans ma vie. J'aime énormément cette réflexion de l'apôtre Paul qui, à un moment, dit « Vous êtes une lettre de Christ, écrite non pas sur des tables de pierre, mais sur de cœur de chair. Vous êtes écrit par notre ministère. Vous êtes une lettre de Christ, destinée à être lue de tous les hommes. » Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'en faire des caisses. Il suffit que je vive vraiment la vie du royaume, les autres, ils me regardent et ils lisent la Bible. Excusez-moi, je ne mets de reproche à personne, je suis en progrès comme vous. Peut-être votre mari, il ne veut pas lire la Bible. J'ai vu une sœur, une fois, elle me disait, Steph, je ne comprends pas. Mon mari, je lui explique, je lui réexplique, je lui dis, je lui redis. Je laisse la Bible discrètement ouverte sur le guéridon. Je laisse le Pentecôte discrètement ouvert sur la table de chevet. La maison, c'était un terrain miné. Il y avait une Bible, partout, il y avait un appel de la vie, un Pentecôte, un machin. Il y en avait partout dans la maison. Elle dit, je ne comprends pas. À chaque fois, je passe discrètement, il n'y a pas touché. Les pages, elles ne sont pas tournées. Elle mettait des repères, vous savez, elle mettait le livre comme ça, d'une certaine façon. Puis elle passait derrière, puis elle dit, oh, il n'a toujours pas bougé. Oh, il n'a toujours pas bougé. Oh, il n'a pas touché à la Bible. Puis un jour, je lui ai dit, ma sœur, ce qui est fantastique avec Dieu, c'est que si ton mari ne veut pas lire la Bible, il peut être obligé de la lire malgré lui. Ah bon, comment on fait? Comment on fait? Ben, je dis, il faut qu'il la lise en toi. Et c'est ça d'être les représentations, la manifestation du... Les autres autour de vous, ils peuvent être obligés de lire la Bible, même s'ils n'en ont pas envie. Parce que nous sommes des lettres de Christ, parce que nous sommes ambassadeurs du royaume, nous représentons le Seigneur de façon permanente, dans ses attitudes, dans ses comportements, dans sa façon d'aimer, dans sa sobriété, dans son équilibre, dans sa lumière, dans sa vérité, dans sa paix, dans sa joie, dans sa façon de pardonner, dans notre unité. Alors je comprends que c'est un sacré programme et que vous puissiez se dire oh, « Ah ben Seigneur, il y a du boulot. Hein. » Ben oui, moi je vous le dis honnêtement, je vous le dis le premier, il y a du boulot dans ma vie. Hein. Décomplexez-vous, il y a du boulot dans ma vie. Hein. Mais je veux considérer pas seulement cette responsabilité, mais ce privilège que mon Père Céleste me fait, que Jésus, mon frère, me fait, d'être ambassadeur de son royaume. Et quand je prie que ton règne, que ton royaume vienne, c'est une prière qui m'engage, parce que je suis conscient que la première chose que je demande à Dieu, c'est que son royaume, il ne tombe pas par enchantement dans la vie d'un autre, mais qu'il faut toujours un représentant humain. Un canal humain pour que l'invisible devienne visible, pour que comme Jésus, mon grand frère, je devienne une représentation du cœur de Dieu ici-bas, du cœur du Père, pour ceux qui m'entourent. Alors on comprend que le Notre Père, ce n'est pas un truc à réciter, mais que c'est vraiment une dimension de vie. Ça nous engage, mais c'est en plus d'être une grande responsabilité, c'est un immense privilège. Et j'espère qu'on va tous le prendre à cœur et dire, Seigneur, on va prier d'une façon différente. Seigneur, que ton royaume vienne dans ma vie. Il faut qu'il trouve une place. Tiens, Seigneur, dans mon cœur, prends la place qu'il faut, Seigneur. Règne, que ton royaume soit visible aux yeux de tous. Amen.